autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour voir le monde dans un grain de sable et nous intéresser à toutes les matières en grains omniprésentes dans notre environnement. Qu'y a-t-il de commun entre un tas de sable et des cristaux de sel, une mesure de farine et un bloc de béton, un sac de riz, une avalanche ou des poussières d'étoiles? Comment mieux comprendre de quelle matière est fait le monde? La science des matières granuleuses, la science du sac de billes, pour reprendre l'expression du prix Nobel Pierre-Gilles de Gennes, qui en a été l'initiateur, est devenu en quelques décennies un inépuisable sujet d'études et de recherche. Comprendre comment les grains s'agglutinent ou s'écoulent est aussi une formidable source d'inspiration pour de nouvelles applications. Il y a matière et du grain à moudre, comme nous l'avions découvert il y a tout juste un an, en juin dernier, avec notre invité, le professeur Étienne Guyon, co-auteur de Matières en grains aux éditions Odile Jacob. Nous vous proposons de réécouter cet entretien autour de la question « Pourquoi tant de matières en grains ?» Bienvenue. Bonjour Étienne Guyon.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu dans notre studio sur RFI pour partager votre science du sac de billes au tas de sable, titre d'un de vos précédents ouvrages. Vous êtes physicien, Étienne Guyon, professeur et chercheur à l'ESPCI Paris Tech, ancien directeur de l'École Normale Supérieure et du Palais de la Découverte, lauréat de prix scientifiques prestigieux, auteur d'ouvrages de référence sur la matière et les matériaux. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob avec Jean-Yves Delaine de l'INRA et Farang Rajaï du CNRS, matière en grains. On peut dire, après l'eau et l'air, que c'est cette matière-là en grains qui est la plus présente, omniprésente dans notre environnement, Étienne Guyon ?
Tout à fait. On peut dire que 80% du sol de la Terre est couverte de grains, de sable ou de cailloux, de ce qu'on veut. Et puis, évidemment, on le retrouve sur les planètes, on le retrouve dans les poussières d'étoiles, hein, comme on aime le chanter. J'aurais pu penser à ça, Stardust. Et finalement, elle est riche, elle est diverse, mais en même temps, elle n'est pas inépuisable. Et c'est effectivement une des questions qui, de base, qui n'est pas le cœur de notre livre, mais auquel il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait du sable? Qu'est-ce qu'on fait des grains? Comment les utiliser le mieux possible pour maintenir cette espèce, souvent un peu négligée?
Oui, qu'on observe et qu'on néglige un peu. Est-ce qu'on peut parler d'un autre état de la matière? On connaît l'état liquide, l'état gazeux, l'état solide, la matière en grain, c'est quoi? C'est
oui,
un peu alors, tout ça?
C'est vrai. On peut illustrer les trois états classiques de la matière, mais chaque fois, on va avoir des problèmes. Vous faites couler de l'eau dans une assiette, elle va avoir, la surface va rester horizontale. Vous faites couler des grains dans la même assiette, eh bien, elle fera un cône. Qui est un cône très important, qui correspond à ce qu'on appelle le cône d'avalanche, là, et elle ne se mettra jamais horizontalement. Quand vous la secouez, vous avez des propriétés très différentes de l'eau. Donc, je crois qu'il vaut mieux parler d'un nouvel état de la matière, mais qui nous permet d'avoir un regard différent sur les états classiques, c'est ça.
Et ce nouvel état de la matière, hein, vous l'avez étudié, cette science du sac de billes, avec le prix Nobel de physique Pierre-Gilles de Gennes. Vous avez été, je crois, son premier élève de thèse.
Oui, oui.
Et Pierre-Gilles de Gennes, avec vous, vous avez été précurseur dans l'étude de cette matière en grains qui intéressait déjà les anciens, hein, les philosophes anciens.
C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est Pierre-Gilles qui a donné, comme bien souvent, une impulsion initiale en disant bah écoutez, on comprend finalement très très bien comment les atomes, les molécules se comportent, qu'est-ce que c'est qu'un gaz, on comporte tous ces éléments très petits. Et pourquoi ne pourrait-on pas faire profiter de cette connaissance depuis un siècle, hein, la théorie, ce qu'on appelle la théorie cinétique des gaz, comment les gaz se comportent, pour mieux comprendre des grains beaucoup plus gros. Donc la démarche que nous avons suivi, et je l'ai suivi au même titre que Pierre-Gilles, et nous l'avons suivi avec beaucoup de gens de bonne volonté dans de domaines différents, ça a été un peu transposé, paradoxalement, ce qu'on connaissait dans le tout petit, pour s'intéresser à des choses plus grosses. Alors qu'on aurait pu penser le contraire.
Et grains aux gros grains, enfin des atomes aux gros grains.
On est allé des atomes aux gros grains, et la démarche continue à être celle-ci. Et je crois que ça a été ça, et ça a été l'originalité, parce que il y avait évidemment énormément de gens dans tous les domaines des sciences et techniques qui s'intéressaient à l'utilisation des grains ou au fonctionnement des matières en grains, mais il manquait une science un peu unique. Et au tout début de notre approche avec Pierre-Gilles et avec d'autres, Pierre-Gilles de Gennes, nous avons penser que le modèle le plus simple, c'est un sac de billes. Des grains, ils sont durs, ils sont pas, ils se rentrent pas l'un dans l'autre, ils s'évitent et ils vont faire des pyramides comme des pyramides d'oranges, mais on peut les voir s'écouler, on fait renverser un sac de billes, on peut les secouer, on voit un gaz, donc. Et avec évidemment l'originalité. Donc le modèle de départ, c'était le sac de billes. Mais si quelque chose comme 20 ans après, j'ai écrit avec deux collègues matière en grains, c'est parce que justement au niveau mondial, c'était parti de la France, mais au niveau mondial maintenant, il y a une recherche considérable qui se fait sur ce sujet à cause des très nombreuses applications que vous avez citées d'ailleurs en début de votre présentation.
Je vous propose juste pour le plaisir, Étienne Guyon, d'écouter justement la voix du prix Nobel Pierre-Gilles de Gennes sur les matériaux compacts dans cet extrait vidéo de La physique du sac de billes que vous avez réalisé avec Alexis et Martinet en 1997.
On rêve souvent de faire des matériaux très compacts. Et si on ne réfléchit pas, on se dirait volontiers que la meilleure façon de faire du compact, c'est d'avoir des grains qui sont tous bien pareils, identiques les uns aux autres. En fait, c'est pas du tout vrai. Si je prends ces billes, si j'essaye de les entasser, vous voyez que ça laisse entre elles des très gros trous. Et l'astuce pour faire des systèmes vraiment compacts, c'est d'avoir plusieurs calibres de billes. Par exemple, dans ces grosses, si j'ajoute ce petit grain qui est là, bien ce petit grain va pouvoir se glisser entre les grosses et passer et remplir. Et en fait, on répète cette idée plusieurs fois, c'est-à-dire qu'après avoir mis ces grains-là, on va en mettre encore d'autres qui seront 10 fois plus petits pour remplir les trous de la deuxième génération. Et on fait comme ça des systèmes à plusieurs générations. C'est comme ça que beaucoup de béton de haute performance qu'on utilise de nos jours sont conçus. On arrive comme ça à un matériau qui est idéalement rempli.
Explication limpide de Pierre-Gilles de Gennes, oui, sur laquelle vous voulez réagir, Étienne Guyon.
Elle est limpide et elle était tout à fait correcte et j'ai contribué à cette recherche. Mais aujourd'hui, on fait encore beaucoup mieux.
Pour
et
le
ça,
béton.
Ça, il ne savait pas. Pour le béton, on appelle les bétons fibrés. Il se trouve que j'ai reçu de Romain Ricciotti, qui est un travail avec Rudy, son père, que c'est un grand architecte du béton, un document dans lequel il montre qu'effectivement, si on rajoute des fibres dans ces bétons, on fait encore beaucoup mieux que ces bétons haute performance dont parlait Pierre-Gilles de Gennes. C'est tout à fait remarquable. Donc, et si vous allez à un endroit comme le Mucem à Marseille,
où
il y a un petit passerelle d'une centaine de mètres qui relie au Fort Saint-Jean, eh bien vous avez une passerelle qui fait quelques centimètres d'épaisseur. Donc qui vibre un peu comme si c'était un métal. Et pourquoi elle est comme ça? C'est parce que on s'est pas arrêté à la démarche que vient de nous décrire de Gennes. Je ne savais pas qu'on avait parlé de ça, mais on a rajouté un élément supplémentaire, ce qu'on appelle ce matériau ductal, et qui va en faire encore améliorer. C'est un bon exemple, parce que de Gennes est allé au bout de ce qu'on pouvait faire, mais rien ne nous dit que ce béton très haute performance ne sera pas dépassé encore. Je crois que c'est là où la recherche actuelle est très active.
Cette science des grains, justement, pour faire coller les grains entre eux, parce que c'est ça aussi la question, finalement. Comment se comporte un grain et comment et pourquoi il se colle ou pas, il s'écoule ou pas, il se frotte
C'est ça. Je travaille avec des gens qui travaillent sur l'Afrique, sur l'Afrique et dans d'autres endroits, dans lequel ils ont réalisé des briques qui étaient avec de l'argile locale et puis une plante invasive du fleuve Sénégal qui s'appelle Tifa. Et pour le faire rentrer dedans, ben ils ont rajouté du savon, de l'eau savonneuse, ils l'ont lavé. Donc l'eau savonneuse permet que ces tiges, ces fibres de cette plante invasive collent beaucoup mieux et modifie complètement les propriétés des briques qu'on peut faire à température ordinaire, c'est-à-dire sans avoir besoin de cuire. Donc, comme vous l'avez dit, il va être important non seulement de connaître quels sont les grains, quelles sont leurs formes, leurs tailles, comment on les organise, mais aussi quelles sont leurs propriétés d'adhésion avec les autres, comment elles s'entendent avec les autres.
Oui, c'est ça qui est, fondamental dans ces grains, c'est comment ils se... Et comme vous l'avez dit, l'eau est fondamentale là-dedans
l'eau est fondamentale,
pour les faire se coller.
L'eau, c'est bon et pas bon. Si vous laissez trop d'eau dans un béton, dans les bétons anciens, ça conduira à la dégradation de ce béton.
Donc absolument. Il faut la juste mesure, proportion, des modélisations aussi aujourd'hui pour
comment
ça. Il y a des modélisations aussi numériques
aussi
aujourd'hui.
Ah oui, des modélisations, des expériences. On travaille dans un domaine, si vous voulez, où il y a trois visions, ou trois ou quatre. Une, c'est l'expérience, qui pourrait être fait par des jeunes qui sont faits. L'autre, c'est évidemment la modélisation numérique. Et puis, la troisième, ça va être effectivement de faire des mesures. On va prendre un tas de sable et on va le mettre dans une source de rayonnement synchrotron à Grenoble pour essayer de comprendre comment finalement l'eau s'est infiltrée et assure la liaison entre des grains de sable d'un château de sable. Vous voyez, tous les outils. Et c'est normal, c'est comme ça que la science progresse. Elle est science parce qu'on met tous les outils au service d'un problème.
Du sable au béton, autour de la question pourquoi tant de matière en grains, un spécial dédicace à nos auditeurs en Haïti,
oui,
qui nous écoutent à Jacmel sur 96.9. Je sais que vous vous intéressez beaucoup aux constructions antisismiques en Haïti. Jacmel, où est née la chanteuse belgo-haïtienne Dinabé, que je propose d'écouter tout de suite sur RFI, Béton Acier.
Auto-building, pression shooting, travail, métier, coller serré, faut être premier, béton, acier, auto-building, pression shooting, travail, métier, coller serré, faut être premier. Des troupes, les chefs dégoûtent. Prières brûlantes ou menaçantes, les peurs tremblent. Images et sons à produiteur, panier d'horreur. Web sans frontières où tout se dit faux.
Béton, acier, la belgo-haïtienne Dinabé sur RFI. Autour de la question, pourquoi tant de matière en grain ? Titre du livre de notre invité, le professeur Étienne Guyon. Je vous propose un nouvel éclairage sur des matières en grain et en poudre utilisées en cuisine pour le plus grand bonheur des gourmands. C'est l'éclairage science culinaire du biophysicien et cuisinier Christophe Lavelle.
Les matières en grain, c'est-à-dire des poudres. Et dans les poudres, il y a énormément de poudres alimentaires avec différentes granulosités. Les plus fines qu'on peut imaginer, par exemple le sucre glace. Et puis à l'opposé, on va avoir les grains de semoule. Où là, on peut faire de la physique très amusante avec des grains de semoule. On peut essayer de voir la stabilité d'un tas de grains de semoule ou la stabilité d'un tas de sucre qui va être différente. Il y a des expériences marrantes avec des muesli, où aussi c'est des grains. Donc on a des muesli dans une boîte et puis on les secoue. Puis suivant les gros partent en bas, enfin le contraire, les petits vont en bas, les gros au-dessus ou l'inverse, suivant les conditions, suivant comment on secoue. Donc il y a des tas de manips amusantes à faire avec des poudres culinaires. Mais au-delà des manips amusantes, on peut se poser la question de, dans la vraie vie, quand on utilise dans l'industrie, quels sont les problèmes posés sur ces matières poudreuses et comment la science répond aux éventuels problèmes technologiques qu'on va avoir par rapport à la manipulation de ces ingrédients de différentes tailles.
Les matières poudreuses, Étienne Guyon, quelles questions ça pose justement
C'est-à-dire, on n'a pas du tout défini la taille de l'objet qu'on regardait. La taille, ça peut être un caillou, un gravier qu'on tient à la main, ça peut être un grain de sable qui est quelques centaines de micromètres, et puis ça peut être des poudres, des poudres pulvérulentes, et à la limite, on ne voit pas pourquoi on n'irait pas jusqu'à l'atome, sinon on n'y va pas en pratique.
Mais oui, tout est grain au fond.
Mais quand les grains vont devenir assez petits, beaucoup plus petit que 100 microns, eh bien on a un phénomène universel qui s'appelle agitation thermique, c'est-à-dire que les tout petits grains, ceux qu'étudiait Jean Perrin et pour lesquels il y a eu le prix Nobel de physique d'ailleurs, ces tout petits grains ont un mouvement par eux-mêmes. Alors, dans notre livre, on ne s'est pas intéressé à ces tout petits grains, pas du tout par négligence, mais parce qu'on voulait regarder plutôt les grains de matière qu'on va manipuler. Mais c'est vrai que les poudres actuellement, si elles sont terriblement fines, elles ont par elles-mêmes une petite agitation qui est naturelle, qui est une marque, on le sait maintenant, de la température du matériau ou du gaz constitué par ces particules.
Vous n'êtes pas intéressé à ces poudres-là, mais vous avez beaucoup de métaphores culinaires dans ce livre très sérieux.
Mais elles sont plus que métaphores. Et donc, l'intervention qu'il y a eue, elle me renvoie à une description qu'on fait assez détaillée du couscous.
Oui,
comment arriver couscous, finalement à obtenir des grains de couscous qui sont obtenus à partir de grains de farine de blé dur et de les faire de telle façon qu'ils aient à peu près tous la même taille. Alors évidemment, on peut recycler ceux qui n'ont pas la même taille, mais donc, il y a aussi la question que j'ai posée, c'est dans un clafoutis, on met des cerises, c'est la saison, hein,
oui.
Et j'aime bien les faire, du clafoutis. Et donc, il faut faire en sorte que les cerises restent en mélange, et non pas qu'elles tombent au fond.
Voilà.
Et donc, c'était une des questions qui était posée, comment faire en sorte que le mélange reste, alors que naturellement, c'est encore une caractéristique de ces matériaux granulaires, que naturellement, si vous secouez, comme ça a été dit, un mélange de grains de tailles différentes, eh bien, les gros montent au-dessus en général. C'est ce qu'on a publié on a appelé ça l'effet des grains du Brésil, que les noix du Brésil, parce que quand on mélange des noix d'apéritif de tailles très différentes et qu'on secoue, généralement les plus grosses vont au-dessus. Mmh. Ce qui est un peu paradoxal, ça s'appelle l'effet noix du Brésil. Voilà.
L'effet noix du Brésil, il y a aussi l'effet des bonbons M&M's, tant pis, on cite une marque, mais c'est quand même assez étonnant sur l'empilement de ces
grains-là. Oui, la recherche, c'est pas du tout moi, c'est un de mes amis et collègues américains qui a étudié, qui s'est fait livrer des sacs de M&M's. M&M's n'a jamais voulu leur dire comment ils faisait ses grains bien calibrés, et il a observé que finalement on arrivait à faire des empilements plus compacts. Il y a quand même du vide, comme disait Degène, il y a s'ils ont tous la même taille, mais empilements plus compacts avec ses grains qu'avec finalement des grains sphériques. Donc ils sont amusés, parce que quand même en science, si on fait de la science, si je continue à faire de la science à mon âge, c'est parce que je m'y amuse. Évidemment, je peux plutôt travailler les autres que moi-même. Mais donc, ils ont regardé qu'effectivement, les grains M&M, quand on les empilait, faisaient un empilement plus compact, c'est-à-dire à moins de vide, que si on les avait mis sphériques.
De la forme des grains, comment se fabriquent les grains? Les gros font des petits, les petits peuvent faire des gros, Étienne Guyon?
Alors, disons, il y a une idée tout à fait nouvelle qu'on met en avant dans cette le livre Matière en grains, c'est on est en train d'aller vers une ingénierie des grains. C'est-à-dire, les grains, au début, je vous avais dit, c'est des petites bides, toutes de même diamètre. C'est beau, mais c'est un peu bétade. Mais maintenant, si on joue sur les formes, on peut les faire sur les interactions qu'ils ont entre eux, on va pouvoir faire des structures nouvelles. Et en particulier, il y a toute une physique qui se développe, une science qui se développe, qu'on appelle les métamatériaux. Mmh. C'est-à-dire, des choses qui ne sont pas très gros, mais ils sont pas très petits, mais qu'on sait produire et qui vont nous donner des propriétés nouvelles. C'est un domaine qui s'ouvre considérablement.
Et ces métamatériaux sont eux aussi faits de grains,
des grains, mais les grains, ils vont avoir des propriétés. C'est pas juste des objets inertes. Je dirais pas qu'on les fait intelligents, mais en tout cas, on leur donne des propriétés qui vont réaliser des choses qu'on ne pourrait pas réaliser autrement avec des grains bébêtes.
Oui, une fois qu'on a compris comment fonctionnent, comme vous dites, les grains bébêtes, on peut en fabriquer des un peu plus intelligents.
Donc c'est véritablement une ingénierie, et c'est quelque chose qui démarre actuellement dans les dernières années. Donc si on réécrit, ça sera quelqu'un d'autre que moi, matière en grains, dans 10 ans, dans 15 ans, je crois qu'il en sera beaucoup plus question.
On continue d'égrener toutes ces questions présentes et à venir autour de toutes ces matières en grains à l'écoute d'un grain de sable, celui de Luciole sur RFI.
Je traverse un désert humide à la recherche d'un grain de sable. Et je me sens poids qui veut devenir plume. Et je me sens larme qui veut devenir dune. Et je me sens étoile qui veut devenir lune. Je traverse un désert humide à la recherche d'un grain de sable. J'avance d'un pas lent, attentive aux attentes tendues. Attendue, vigilante, et bien plus je cherche. Tâtonne, frissonne, marmonne, chantonne. À l'occasion, je continue ma mission. Cette mission, c'est ma vie. Pas de celle que l'on oublie, mais de celle qui nous habite, nous hante, nous agite. La mienne, c'est de le trouver. ce grain de sable abandonné pour vous. Cailloux dans les souliers, mais pour moi, c'est un grain de beauté. Mais il y en a tellement, des millions, des milliards, des tonnes et puis des tonnes. Avancez dans le brouillard, c'est l'aiguille dans le foin. C'est l'étoile du matin que l'on poursuit en vain et qu'on n'attrape jamais. Ça, on en est certain. Et moi, je traverse un désert humide à la recherche d'un grain de sable. J'avance silencieusement pour ne pas le faire fuir, pour ne pas l'effrayer, peut-être même pour le surprendre, doucement l'enlever, les mains moites, le mettre dans une boîte et lentement l'emporter pour ne jamais le quitter. Unique, magique alors, je traverse des airs humides à la recherche de ce grain de sable qui, parmi tous les autres, brille dans l'obscurité, tellement noir, tellement noir. Même si je me sens quoi, qui voudrait venir plus. Même si je me sens l'arme, qui rêve de venir vu. Même si toutes les étoiles voudraient être la lune, je continue de le chercher, c'est une grain de beauté. Même si je me sens quoi, qui voudrait devenir plus. Même si je me sens l'arme, qui rêve de devenir dû. Même si toutes les étoiles voudraient être la lune, je continue de le chercher, c'est une grande beauté. Trouver ou être trouvé, aimer surtout aimer moi. Je continue d'avancer dans mon désert humide à la recherche.
Grain de sable de Luciole sur RFI en compagnie du professeur Étienne Guyon, notre invité, autour de la question: pourquoi tant de matières en grains et pourquoi tant de grains de sable? Le sable, la matière en grains la plus présente sur Terre, extrait de Planète Sable, une série diffusée sur Arte avec arrêt sur image en Chine, la Chine en guerre contre le dragon jaune, épisode réalisé par Thierry Béraud.
On voit que les grains de sable ne sont pas de même taille et qu'ils ont des couleurs variées. Je vais faire une analyse de ce sable qui va donner une idée du type de grain dont il est constitué.
Les poussières de sable sont stockées et classées selon leur granulométrie, leur nature. On dresse ainsi une série de fiches d'identité.
Une fiche d'identité de chaque grain de sable aujourd'hui, ça vous semble possible, Étienne Guyon ?
Écoutez, c'est non seulement possible, mais ça se fait. Vous aviez mentionné ce film qu'avait fait Pierre-Gilles Dogène, et auquel j'ai contribué. Il avait fait venir là des jeunes, qui maintenant sont des adultes, etc., qui venaient d'un lycée du sable, qui est à Château d'Olonne, dans lequel se met en place un musée du sable, où ils vont prendre des grains d'origine très différente, les regarder sous microscope, les trier, les classer. Donc, il y a autant de types de sable qu'il y a autant de minéraux, puisque les sables résultent de l'agrégation dans un sens, mais la plupart du temps, la brisure de grains beaucoup plus gros.
Et aujourd'hui, c'est une vraie question avec la désertification. Le sable avance, les dunes de sable menacent des villes chinoises, mais aussi une ville mauritanienne que vous connaissez bien, Nouakchott.
Oui, Nouakchott, c'est une ville catastrophe, Nouakchott. Les dunes avancent sur la ville. Alors avant, quand on avait affaire à des nomades, ils plantaient leurs tentes, le vent de sable formait des dunes en amont de ces constructions qui se déplaçaient. Maintenant, on a véritablement du dur et les dunes viennent frotter contre l'habitat. Donc, Nouakchott est une ville catastrophe, si on peut dire. Et donc, il y a Nouakchott et puis il y a les grandes routes. Il y a une route qui se relie la Mauritanie au Mali, et cette route, qui est une route est-ouest donc, et qui en fait est couverte de sable tous les jours. Comment éviter qu'on ait à enlever du sable des chaussées tous les jours? Donc, parce que ces dunes, elles avancent. Les vents, c'est les vents du nord qui arrivent, qui emportent le sable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est peut-être sans solution, mais enfin, il faut bien bricoler quelque chose.
C'est ça, c'est des questions majeures. Est-ce qu'on comprend mieux aujourd'hui, justement, comment se déplace le sable? Ce sable qui a été utilisé dans des constructions traditionnelles, bah, on parlait du Mali, au Mali notamment, en pays d'Ogon.
Oui, Donc oui, en fait, c'est les questions que nous sommes posées. Degène y a contribué, j'ai pu contribuer au moins dans le lancement des idées avec Degène là-dessus.
Avec le prix Nobel de physique.
Il fallait faire une recherche sur le sable, comprendre pourquoi une dune avait une taille et pas une autre, comprendre pourquoi elle avance à une certaine vitesse, qui dépend de sa taille. Et puis, plus récemment, en particulier dans le laboratoire où je travaille, à l'école physique et chimie, on s'est posé des questions pour bien comprendre finalement les propriétés de ces dunes de sable. Il faut aller les regarder ailleurs, en particulier sur Mars.
Où ailleurs, il faut encore les regarder ailleurs. Où il y a aussi du sable, il y a aussi des grains.
Mais bien évidemment, les dunes ressemblent comme des cousines, beaucoup plus grandes, comme des cousines aux dunes que nous avons sur la Terre. Donc finalement, la recherche qui est faite actuellement ici en France, sur ces dunes de sable, touche aussi les dunes des planètes proches.
On va revenir sur Terre, si vous le voulez bien, pour un phénomène un peu particulier. C'est quand les grains de sable se mettent à chanter le chant des dunes. C'est le sujet de recherche et d'expérience d'un physicien que vous connaissez bien. Stéphane Douady, il est physicien au laboratoire matière et systèmes complexes du CNRS. Il a réussi à rendre le sable musical. Il a fait partager ses expérimentations et ses découvertes à notre reporter Alice Milot sur le chant des dunes. On l'écoute.
Les grains, les sables qui chantent, en fait, ils sont vernis par une sorte de dépôt qu'on appelle la glaciaire du désert. Et donc ça, c'est essentiel pour que les sables qui chantent. Pour les sables qui chantent, il faut que les grains soient assez arrondis et recouverts de vernis. Et à ce moment-là, quand ils roulent bien les uns sur les autres, s'ils bougent tout en même temps, c'est ça qui fait du son. C'est-à-dire que les grains de sable, ils font du saut de mouton, toc, toc, toc. Et ça suffit pour faire le son qu'on entend. Ça dépend des dunes, mais en fait, il peut être très musical. Et alors après, on le compare avec ce qu'on peut. Et par exemple, dans Marco Polo, qui était le premier à avoir décrit ça, il le compare justement à des gens qui appellent de loin, les caravanes. Ou alors, il le compare avec la fracas d'une bataille ou le roulement d'une troupe de sabots, de cheval. Et là, c'est pareil, parce que ça peut être très musical, ou alors ça peut être rugueux, ça peut faire brrrr, comme ça. Parce qu'en fait aussi, c'est un son qui vous enveloppe, mais on sent aussi le sol qui tremble. Tellement si puissant, donc on est vraiment baigné. Et c'est un son qui vient, on se rend compte, en fait, c'est un son qui vient du sol. Et c'est une des rares fois où, en fait, on a la terre qui vous parle, si j'ose dire.
Le chant des dunes de sable, phénomène étonnant, Étienne Guyon.
Oui, finalement.
On dirait presque des voix humaines.
Comment ? Ce témoignage de Stéphane Douady est très intéressant parce qu'on pourrait dire que ce qui a été paradoxal, c'est que les dunes de sable étaient connues. On parle de Marco Polo, elles ont été décrites par Darwin. La question, c'est pourquoi est-ce que toutes les dunes ne chantent pas ? Et la question, à contrario, auquel s'est intéressé Stéphane Douady, c'est de dire que faut-il pour qu'un certain sable chante ? Pourquoi les autres ne chantent pas ? Parce que les dunes chantent, dans un sens, ça semblait un petit peu évident, en tout cas qu'elles fassent du bruit. Mmh. C'est-à-dire que quand on fait une avalanche, il y a une couche superficielle qui s'écoule, elle vibre un petit peu comme une membrane de haut-parleur, et elle produit du son. Ça, c'est l'image simple et naïve. Mais faites chez vous avec du sable, faites-le couler dans un récipient en faisant ce cône, vous le produirez pas.
Il va pas chanter. Oui.
Donc finalement, ce qui a intéressé Stéphane et d'autres personnes, en particulier dans mon laboratoire, mais la recherche, vous savez, elle se balade d'un labo à un autre, heureusement d'ailleurs, c'était de voir quelles étaient les caractéristiques de ces sables chantants. Et il le décrit très bien dans cet extrait.
Ils ont réussi à le démontrer. C'est aussi toute la question de l'écoulement. Comment s'écoulent ces matières en grains ?
Oui, alors ça, si vous voulez, dans ce livre actuel, on en parle de matières en grains, on en parle beaucoup. Et c'est des fois, ça peut être un peu technique, parce que, si vous voulez, penser à une manifestation où il y a beaucoup de gens qui sont ensemble. Alors les gens, si vous voulez, s'il n'y en a pas beaucoup, ils s'évitent les uns les autres. S'il y en a beaucoup, qu'est-ce qui va arriver ? Ils peuvent se buter les uns dans les autres, ils peuvent frotter les uns dans les autres. Enfin, et donc, il y a différents comportements où ces sables, ils sont pas très sages. Ils sont pas très sages les uns avec les autres. Vous ne pourrez comparer ça, finalement, à des situations de sable qui sont très importantes pour des choses pratiques. Imaginez, malheureusement, ce qui arrive parfois, une panique dans une salle de concert. Les gens veulent sortir. Ils veulent sortir par une porte. Ils vont buter les uns dans les autres comme si vous mettiez, faisiez couler des grains de riz à long dans un petit entonnoir. Oui. Ils ne passent pas. Et alors on a regardé, en comparant finalement ce qu'on connaît pour les grains et ce qu'on connaît pour les grains d'humanité, ce qu'il faut faire pour limiter ces faits de panique. en particulier, il va falloir éventuellement mettre des obstacles avant la sortie pour obliger les gens à se séparer. Donc,
la physique des grains peut même nous donner des pistes pour
absolument.
Une foule, pour un flux automobile,
Oui, alors ça c'est un domaine, si vous voulez, auquel je n'ai pas contribué, mais que j'ai bien suivi, c'est tous les problèmes, les anglo-saxons disent jamming, on peut dire d'encombrement, de situations d'encombrement qui sont des situations dans la matière granulaire, mais qui sont aussi dans les sciences sociales, dans les sciences du comportement. Ça va être le problème de parking, comment optimiser le parking de voitures, les mettre les uns à côté des autres.
Et pour ça, la science des grains peut y aider.
Et la science des grains, évidemment, il faudra qu'on oublie les grains, mais elle donne des pistes. Et la modélisation de ces comportements de type humain, si on peut dire.
Humain ou animal, parce que vous vous intéressez aussi aux nuées d'oiseaux, aux bancs de poissons.
Oui, oui, il suffit de regarder comment un millier de moutons va essayer de rentrer après la journée et comment ils se frottent les uns contre les autres, ils se bousculent. C'est de la matière en grains.
Des gros grains de moutons ou des gros grains d'humanité.
D'accord.
On a parlé de l'eau tout à l'heure aussi. Justement, qu'est-ce qui fait que ces gros grains, ils vont se coller ensemble, s'agglutiner ou pas
Oui, l'eau, on peut dire qu'elle peut avoir deux rôles tout à fait opposés. Dans un premier, comme dans un château de sable, ce sont des gouttelettes d'eau qui sont entre des grains. On utilise le mot de capillarité, c'est-à-dire la force de l'eau qui est entre les grains qui les colle un peu. Mais l'eau, en même temps, elle peut aider, s'il n'y a pas beaucoup de grains, elle va aider les grains à s'écouler mieux. Donc elle va favoriser l'écoulement des grains. Donc, si vous voulez, c'est souvent, ces notions-là sont ambivalentes, ça dépend dans quelles conditions. Donc l'eau est évidemment un partenaire très important des grains, elle est dans le sol, elle est finalement, malheureusement, dans un glissement de terrain, etc. L'eau, par contre, des fois, va aider à coller. Donc elle aide à coller, à décoller. Et c'est clair que c'est un domaine très intéressant, ce sont les boues. Ce sont aussi ce qu'on appelle les laves torrentielles, c'est-à-dire la façon...
Qui là aussi, vous considérez ça comme sont comme des grains, mais
ce sont des gros grains, mais ça peut être des grains massifs. Mais pourquoi finalement, ou comment finalement, quand vous voyez un lit de rivière après un débordement, comme on en voit de temps en temps, on se dit, mais comment on peut avoir transporté des grains aussi gros avec quand même la force de l'eau qui n'est pas là. Donc il faut comprendre les grains, il faut comprendre l'eau, il faut comprendre ce qui se passe entre les grains entre eux, ou les grains et l'eau. Donc c'est un sujet qui peut être complexe. On essaie de le raconter en des termes simples, en utilisant des fois des images, mais il faut vraiment comprendre ce dialogue comme un dialogue d'opposition et d'amitié et de haine. C'est-à-dire les grains aiment à se frotter les uns contre les autres, et ils aiment à se coller les uns contre les autres, et puis ils aiment aussi à se déchirer, à se séparer. Donc il y a tout un comportement social des grains qui va décrire des choses très différentes, comme un glissement de terrain d'une part, et puis un château de sable bien construit de l'autre.
Et comment faire le tri? Parce que voilà encore une autre question, il y a le dicton, enfin c'est bien connu, comment trier le bon grain de l'ivraie? Comment faire le tri justement, alors, trier ça, les grains, ça, compter les grains?
Oui, alors c'est tout à fait important, peut-être pas de les compter, d'estimer un comptage, parce que le nombre de grains qu'il y aurait déjà dans une poignée de mains, c'est gigantesque, un nombre que je ne sais pas dire. Mais on va être intéressé des fois à les séparer en fonction de leur taille, des fois au contraire en faire des mélanges comme dans la situation que décrivait Pierre Gilles de Gennes. Donc quand on veut les séparer, on va les trier, hein. C'est bébête, mais c'est le tamis.
C'est ça, ou c'est bien, le tamis, les gros d'un côté, les petits de l'autre.
Les petits de l'autre, voilà, on mettra une série de tamis. On peut aussi regarder comment ils sédimentent, c'est-à-dire si vous mettez dans un bocal contenant de l'eau, vous mettez de la terre, vous aurez des gros grains de terre qui vont aller au fond rapidement, et à la fin, il vous restera quand même une eau qui est un peu grisâtre, parce que
il y aura encore des grains dedans.
Il y aura des micro-grains qui sont les micro-grains d'argile. Parce que l'argile, c'est faite de grains aussi. Donc, vous
n'y échappez pas. Qu'est-ce qui n'est pas fait de grains, finalement? Au fond, ce serait peut-être ça la question.
Nous sommes beaucoup de grains, quand même, mais heureusement, on n'est pas que ça.
Heureusement, on n'est pas que ça. Et nous sommes des grains d'humanité, vous l'avez dit aussi. On continue d'interroger donc nos grains d'humanité en écoutant Jacques Higelin sur RFI, Grains de poussière.
Autour de la question.
Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière,
colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent.
Petit ou grand, Jacques Higelin sur RFI. Nous sommes en compagnie du physicien Étienne Guyon autour de la question pourquoi tant de matière en grains et comment les grains de sable, en l'occurrence, nous ont longtemps permis de mesurer le temps qui passe. On retourne le sablier pour écouter l'éclairage d'un horloger. Elias Camiche, notre reporter Jérémy Bazar, l'a rencontré dans l'atelier qu'il dirige où il conçoit actuellement une montre pour commémorer l'anniversaire de la SNSM, la Société de Sauvetage en Mer. Elias Camiche revient sur le grain de sable dans les rouages, éclairage à remonter le temps.
Avant l'apparition de l'horloge et avant de pouvoir compter en fait le temps, on a utilisé pendant la Grèce antique des sabliers pour pouvoir déterminer les temps de parole au sein des assemblées. Avant l'apparition des horloges, on avait soit le clepsydre, donc une mesure du temps à l'aide de l'écoulement de l'eau, ou le sablier. Et c'est vrai que le sablier, on l'utilise peut-être encore aujourd'hui. Il y en a certainement encore quelques-uns dans les cuisines pour cuire les œufs. Donc c'était un des tout premiers instruments de mesure du temps.
Donc le sable et le temps, c'est quelque chose qui est assez lié en fait.
Alors c'est lié, mais si par aventure on avait un grain de sable qui viendrait dans un rouage mécanique, là ça serait une autre histoire. Le sable deviendrait plutôt l'ennemi de l'horloger plutôt qu'un ami.
Gauthier Giroux, je suis étudiant en diplôme des métiers d'art à Paris, en horlogerie.
Alors expliquez-moi ce qu'on a en face de nous là.
On a un mouvement mécanique vraiment classique, avec une force motrice, une transmission de cette force à travers un jeu de rouage, un échappement et une régulation ici à travers le balancier spiral.
Et donc si un grain de sable vient dans ce mécanisme, dans ces rouages, tout s'arrête ou en fait il peut passer quand même?
On ne sait jamais vraiment, c'est pas souhaitable, ça peut continuer, mais il y a de grandes chances que ça s'arrête. Parce que tout ce qui est corps étranger, tout ce qui est considéré comme étant un corps étranger dans le rouage, va venir justement perturber en fait, le couple de transmission de cette force motrice qui est recherchée et dont l'écoulement doit être le plus parfait pour avoir un bon réglage de la montre. Il va y avoir un arc-boutement, l'écoulement mécanique ne sera plus assuré, la montre va s'arrêter automatiquement.
Gauthier Giroux, la matière en grain, c'est quelque chose que vous connaissez en horlogerie en fait. Vous utilisez ça pour faire des prototypes de montres?
Oui, tout à fait. On a connu ça effectivement cette année avec la montre du cinquantenaire de la SNSM qu'on a dessinée et qui nous a permis en fait de développer justement un prototype en fusion laser. C'est un procédé qui permet, grâce à de la poudre et à un laser, de développer en 3D un boîtier qui passe de la poudre au solide et au volume.
Elias Camiche, est-ce que vous avez une question pour Étienne Guyon?
Oui, j'ai une question. Je m'interroge sur la possibilité de pouvoir fusionner tout type de grains, notamment par fusion laser, par exemple, pour constituer des nouveaux matériaux.
Étienne Guyon, quelle possibilité de concevoir de nouveaux matériaux grâce à cette technique laser ?
Oui, oui. Enfin bon, c'est clair que le frittage en général, c'est la construction. Le frittage, c'est la construction de matériaux à partir de grains qui sont soudés entre eux par un apport de matériaux extérieurs supplémentaires ou simplement parce que les grains en surface vont fondre, vont se coller entre eux. Donc les matériaux frités, c'est une classe très importante. Vous ne le savez pas, mais quand vous utilisez des couteaux en céramique, vous utilisez des matériaux frités. Et là, en l'occurrence, ce qui est dit dans cette interview, c'est que si on prend des grains et qu'on les chauffe d'une certaine façon avec un laser, ils vont fondre de telle façon qu'ils vont se coller, et si on les apporte progressivement, ils vont pouvoir construire une structure en volume. Donc cette impression 3D, qui se développe depuis quelques années, va jouer un rôle considérable, et puisque je parle à RFI, ça me semble essentiel de dire que probablement dans les transports de connaissances et de savoir avec les pays en développement, ça va jouer un rôle considérable.
Cette impression 3D.
C'est-à-dire que finalement, vous allez pouvoir, nous, on a, à l'école de physique et chimie, on a toute un travail actuellement sur ce qu'on appelle cette science frugale qui permet de pouvoir communiquer à distance. Vous pouvez envoyer les plans d'un microscope. Ce microscope, si la personne a ses équipements 3D qui ne viennent pas chers, il va se construire son microscope directement, suivant les plans qui lui ont été envoyés. C'est-à-dire, c'est comme si on avait envoyé des matériaux en volume, sinon que les gens vont le fabriquer eux-mêmes. Et je pense qu'effectivement, il y a un avenir. Et là-dedans, une des façons de le faire, c'est d'utiliser des grains de matière qu'on soude entre eux, mais qu'on soude avec un motif qu'on a envie de faire et qui va réaliser cet instrument, que ce soit pour la physique, la médecine, etc. Donc c'est un développement considérable.
Les applications sont nombreuses et multiples dans tous les domaines de cette science des grains. On en a tellement parlé, mais en médecine, un cachet d'aspirine,
il faut que tout le monde. La pharmacie, c'est des poudres, qu'elles soient compacifiées ou qu'elles soient dans des petites gélules. Finalement, on est de la matière en grains. Donc, si vous voulez, en écrivant ce livre, j'avais pas envie de peut-être faire une diffusion universelle, mais de pas apparaître simplement comme des gens qui font une technique un peu particulière réservée à des clans de privilégiés comme mes deux amis qui en fait organisent le congrès mondial.
Jean-Yves Delaine et Farhang Radjaï.
Jean-Yves, qui sont les présidents d'un congrès mondial sur les poudres et les grains qui se tient à Montpellier au mois de juillet et qui vont réunir des gens du monde entier sur la diversité des applications. Alors évidemment, là-dedans, le sablier apparaît comme un petit peu un gadget, mais c'est un bel outil, c'est un outil qui fait rêver, et on l'utilise, moi je mange plus d'œuf à la coque, mais enfin,
on s'en sert moins du sablier aujourd'hui, vous me dites vive le sablier.
J'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Bernard Mettet, qui a construit pour l'an 2000, qui a construit un gigantesque sablier au Jardin des Plantes, qui est resté quelques mois.
C'est ça comme particularité, justement, le sablier, enfin le sable dans le sablier
C'est que le sable dans le sablier, si vous regardez en haut, la caractéristique principale, je crois que c'est peut-être ce que je peux dire, c'est que le sable s'écoule à une vitesse constante jusqu'au moment où le sablier est à peu près vide. Alors c'est très différent de la clepsydre qui a été mentionnée, l'horloge à eau. L'horloge à eau, quand il n'y a plus beaucoup d'eau dans le compartiment supérieur, le débit diminue. Dans le sable de sablier, le débit va rester le même jusqu'au bout, pratiquement jusqu'au bout, à cause d'un effet qui est assez compliqué, qui est un effet qui ressemble aux voûtes de Catherine, un effet de voûte qui va empêcher effectivement que ça soit toute la hauteur du sable qui compte. Donc voilà une propriété importante de ce sablier.
Et du grain, donc pour mesurer le temps
Le grain pour mesurer le temps, évidemment. Les grains pour mesurer le temps. Alors c'est pas un petit grain tout seul.
Non,
alors évidemment, l'horloger, il aime pas l'avoir le petit grain tout seul dans un rouage d'horlogerie, mais dans un sablier, qu'il y ait des petits grains tout seuls, c'est pas très grave. Ce qui importe, c'est quand même l'écoulement de l'ensemble de grains. Au lieu de s'intéresser aux grains, on va s'intéresser au tas. On est passé de la notion de grain individuel aux notions de tas, comme quand vous prenez des individus et que vous parlez d'un groupe social. Alors évidemment, ce groupe social est constitué
de
beaucoup d'individus qui interagissent entre eux.
De grains uniques.
Mais qu'on ne réduira pas à ces gens particuliers. Bien, de la même façon, quand vous prenez un tas ou un ensemble de grains, il a des propriétés. Évidemment, chaque grain intervient, mais quand même, il y a un comportement collectif qui va être retenu. Donc, c'est un argument qui était connu par les philosophes il y a très longtemps, qu'on appelle l'argument du sorit. Soritos, c'est le sorit, c'est ce qu'on appelait la médecine galénique, de Galien. Donc, finalement, on va s'intéresser. On est dans notre livre au grain individuel, mais on va surtout s'intéresser à ce qui se passe quand il est collectif.
Collectivement, et en même temps, il y a tout dans un grain. On n'a pas parlé du sens étymologique, mais il y a tout dans un grain.
Oui. Bien évidemment, le grain lui-même nous intéresse, le grain lui-même, et il nous intéresse d'autant plus que c'est une ressource qui n'est pas tellement renouvelable sur Terre. Et c'est,
oui, il faut le rappeler, on a l'impression que les grains, le sable en l'occurrence, ressources tellement diverses et variées sur Terre, mais ce n'est pas inépuisable.
Pas du tout. Il s'épuise, et gravement il s'épuise, il est pillé, et la quantité de sable qui est déplacée de zones de sable, hein, comme des plages ou les fonds proches de la mer, se comptent en milliards de tonnes par an. Milliards de tonnes. Alors c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de zéros. Mais accepter
attention,
que c'est très très beaucoup.
Attention à notre sable, faisons, c'est très beaucoup, attention à notre sable. Est-ce que ça a changé un peu votre regard sur le monde, de travailler comme ça, alors non seulement pour ce livre, mais dans vos recherches sur ces grains et toutes ces matières
en
grains ?
Je vais vous dire, ce que ça a changé pour moi, ça a surtout été en relation avec des jeunes. Quand j'étais au Palais de la Découverte, ou que nous avons fait des expositions sur les grains, on a pu voir comment les jeunes appréhendaient le grain. Mais moi, quand j'étais enfant, j'aimais les châteaux de sable. Mais une des choses, l'arithmétique qui m'a le plus fasciné, c'était de dire, est-ce que papa, maman, est-ce que vous pouvez me dire combien j'ai de grains dans ma main ? Alors, ils me disaient
impossible.
Des chiffres qui étaient très, très grands, et probablement. Donc, c'est clair qu'il y a cette multiplicité, cette diversité qui sont toutes les deux à prendre en compte dans les grains,
et
dans la matière en grains.
On peut faire passer justement du sac de billes au tas de sable, depuis les enfants jusqu'au plus pointu des recherches. Merci infiniment, Étienne Guyon, d'avoir fait partager justement toutes ces recherches et donner tant de grains à moudre. Matière en grains, c'est le titre de votre dernier ouvrage, très complet et très accessible, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. On se quitte au son d'un de vos morceaux fétiches, 19 Tunisia, Duke Ellington, sur la fille.
@rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter ou à nous podcaster sur le site de RFI. On se retrouve demain sous le soleil, exactement, avec l'astrophysicien Sacha Alan Brun. Autour de la question, comment fonctionne notre soleil, avec Apolline Vernon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, ne quittez pas. Le prochain journal, c'est dans une minute.